Prenez place. Et rassurez-vous, je ne vais pas chanter notre prédication de ce matin, donc ça va. Donc, grand merci pour l'accueil. Je m'appelle en effet Johnny. J'apporte les salutations fraternelles de l'église Emmanuel à Québec, qui se rassemble ce matin aussi. Donc, on prie pour vous souvent. Et donc, c'est très chouette de pouvoir être ici avec vous ce matin. Ce que nous allons faire, c'est d'ouvrir nos Bibles et regarder quelques versets ensemble en 1 Pierre, chapitre 2. Et nous allons lire simplement les versets 9 à 12. Et réfléchissez ensemble à l'appel dans ces versets à proclamer les louanges de Dieu. Donc 1 Pierre 2, versets 9 à 12. Et je vais prier Dieu pour lui demander son aide avant de lire et de prêcher. Notre Dieu, nous te remercions pour l'opportunité que nous avons de pouvoir nous rassembler, écouter ta parole ensemble, prier, chanter tes louanges. Nous prions pour les autres églises, les églises de notre association, mais aussi toutes les églises en Jésus-Christ, ici sur Bruxelles et plus loin. Nous te remercions pour toutes les façons dont ta parole est en train d'être proclamée ce matin. Que tu bénisses cela. Et nous prions pour nous maintenant, notre Dieu. Donne-nous d'être attentifs, de voir dans ta parole ce que tu as à nous dire. Ouvre nos cœurs. Nous te prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre 2, et du verset 9 à verset 12. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. Alors, on va commencer ce matin la prédication avec une petite quiz, une petite devinette. Donc, voici trois phrases simples à compléter. Vous pouvez le faire juste dans votre tête ou le dire à haute voix si vous voulez. On peut dire qu'un footballeur s'entraîne afin de...
gagner.
Ouais, gagner et simplement jouer au foot. C'est très simple, hein, c'est pas compliqué comme quiz. Le footballeur s'entraîne afin de gagner au foot, jouer au foot, en effet. Il ne s'entraîne pas afin de pouvoir manger son petit-déj, il s'entraîne afin de jouer au foot. Le pianiste répète au piano afin de jouer au piano. Très bien, vous êtes bien éveillé ce matin, c'est super. On peut dire aussi que le parachutiste attache son parachute afin de sauter de l'avion, bien sûr, afin de ce soir ne rien faire. À sa table. Alors, il y a deux petits mots dans toutes ces trois phrases, n'est-ce pas? Vous les avez remarqués? Afin de. Et ces deux mots ont un sens très simple. Dans ces phrases, ils lient intrinsèquement l'identité de la personne à sa raison d'être, si vous voulez, son activité. Et c'est évident parce qu'un footballeur qui ne joue pas au foot, ce n'est pas un footballeur, tu vois. Une pianiste qui ne joue jamais le piano, ce n'est pas une pianiste. Et un parachutiste qui ne fait aucun saut, ce n'est pas vraiment un parachutiste, même pas le dimanche. Et dans le verset 9 que nous venons de lire, 1 Pierre 2, on retrouve bien ces deux petits mots, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on lit? Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. De qui parle-t-on dans ce verset? On parle du peuple de Dieu, son Église, son peuple choisi, tous ceux qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Si tu es chrétien, si tu as placé ta foi en Jésus, tu te retrouves forcément dans ces versets-là. Et quelle est la raison d'être des chrétiens alors? Son activité? Proclamer les louanges de Dieu. Et c'est ce que l'on va voir avec notre premier point, avec la première partie de cette prédication. La raison d'être de l'Église, du peuple de Dieu, c'est de proclamer les louanges de Dieu. Et pour pouvoir bien développer cela, il faut comprendre un peu le contexte de ce qui se passe ici. Parce qu'en fait, il y a des noms quelque peu bizarres pour les chrétiens quand même. Des prêtres royaux, nation sainte, peuple racheté. Mais ces titres-là, si vous voulez, ces nominations ont une signification qui date de bien avant le Nouveau Testament et de l'apôtre Pierre qui est en train d'écrire aux chrétiens après Jésus-Christ. Et ces nominations font référence au premier grand rassemblement d'un peuple que Dieu a orchestré en rachetant le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Premier peuple de Dieu, si vous voulez, racheté, rassemblé, a eu lieu lors de l'Exode, dans un certain sens. Et Dieu les a rachetés à travers la Pâque, les sacrifices des agneaux par lesquels les premiers-nés d'Israël ont été sauvés. Et en même temps, il les a délivrés de l'esclavage du Pharaon. On peut lire un petit peu de cela, en fait, en Exode 19 et les versets 1 à 6, d'où vient, en fait, la citation exacte de 1 Pierre, ou de Pierre lui-même. Lisons Exode 19, versets 1 à 6. Le jour même, du troisième mois après la sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Et Moïse monte vers Dieu et l'Éternel l'appelle de haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi, le voici, un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. » Vous voyez la citation, verset 6. « Un royaume des prêtres et une nation sainte, les gens que Dieu a amenés vers lui, ils trouvent maintenant leur identité en tant que peuple de Dieu. » On peut dire alors en fait que le plan de Dieu, depuis le tout début de l'histoire, c'était d'avoir pour lui-même un royaume des prêtres, une nation sainte, et des gens qui sont différents, qui sont mis à part, qui sont invités, qui sont rachetés pour lui appartenir. Mais en fait, ce projet, si vous voulez, que Dieu a commencé là-bas il y a très très longtemps dans l'Ancien Testament, n'est jamais abouti dans l'Ancien Testament. Le peuple n'a jamais atteint la sainteté nécessaire, n'ont jamais été vraiment une nation sainte. Idem pour ce que c'est d'être prêtre, des personnes qui parlent à Dieu et parlent de lui aux autres. Le peuple a échoué, le peuple d'Israël a échoué en cela, à cause de leur péché. Mais, ici, quand on a lu là en 1 Pierre 2, après Jésus-Christ, Dieu ne dit plus comme il disait en Exode, « Vous serez une nation sainte ». Mais, verset 9, vous êtes maintenant une nation sainte, vous êtes un royaume des prêtres. Et comment? Comment est-ce possible ça? Parce que cette fois-ci, Dieu a racheté son peuple, non pas de l'esclavage au Pharaon, mais de l'esclavage du péché, grâce à la pierre vivante et choisie et précieuse devant Dieu, Jésus-Christ. On utilise ces mots parce qu'ils viennent des versets juste auparavant. Et donc l'Église, alors, telle qu'on voit ici dans 1 Pierre, le peuple à qui Pierre s'adresse, tel que nous sommes, si nous croyons en Jésus-Christ, en fait on découvre que c'est l'aboutissement
de tout le plan de Dieu. Un peuple, des prêtres, une nation sainte.
Mais même là, ce n'est pas tout à fait fini. Et on fait tout le parcours d'histoire ici. Car on attend quoi? La perfection de l'Église. Et vous auriez noté cela. Même si, grâce à Jésus-Christ, on peut dire maintenant, vous êtes un peuple saint, vous êtes tout ce qu'il faut, on sait très bien qu'on n'est pas super à le faire, à rester saint, à obéir parfaitement à Dieu. En fait, on attend la perfection de l'Église, lors du rassemblement final de l'Église autour du trône de Dieu, tant qu'on en parle dans l'Apocalypse, au retour de Jésus-Christ dans le futur. Mais ça veut dire, et ce que Pierre est en train d'enseigner quand il parle aux chrétiens de son époque, et maintenant, en fait, toujours la même chose, parce qu'on est dans la même période de l'attente du retour de Jésus-Christ. Toujours, ça veut dire quoi? Ben, verset 9. Les églises qui sont locales, ou les peuples, là où les peuples de Dieu se rassemblent, on est là pour proclamer les louanges de Dieu. On est ce peuple afin de proclamer les louanges de Dieu. Un petit commentaire là. J'ai dit église locale, rassemblement de gens, non pas d'individus, un peuple. En fait, la Bible nous dit clairement qu'être chrétien, ça veut dire qu'on fait partie du peuple de Dieu, d'office. On ne peut pas dire je suis chrétien, mais je ne suis plus en contact avec d'autres chrétiens. Non, en fait, en tant que chrétien, on fait partie du peuple de Dieu. Et du coup, on veut, en tant que chrétien, on va naturellement, d'office, trouver le moyen de vivre cela, ce terme. Dans certains pays, c'est très très compliqué. Dans d'autres, comme le nôtre, ça peut se faire très ouvertement. Mais l'idée, c'est qu'on est appelé simplement à faire partie d'une église où je connais les gens et je suis connu par d'autres. Je fais partie d'un peuple. Je veux être dans une église où Jésus est au centre, où on se rassemble autour de lui. Et je prends cet engagement au sérieux, la Bible nous enseigne. Donc chacun et chacune a sa propre responsabilité en tant que chrétien, bien sûr, mais notre souci doit être d'encourager tous à devenir disciples de Jésus-Christ ensemble. On a la beauté de pouvoir faire cela. Donc vous ici, à l'église de la rue des Moniteurs, vous êtes une petite représentation sur terre de l'église au ciel, de ce que ça va être lors du retour de Jésus. C'est qu'on est souvent blessé quand on passe du temps avec d'autres chrétiens dans l'église. C'est compliqué parfois. Mais en fait, si proclamer les louanges de Dieu, c'est déclarer ce qu'il est fait, alors l'église, ça risque de ne pas être facile parce qu'on est en train de se rassembler en tant que pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. C'est un hôpital et non pas un club de sport dans un sens. Ça va faire mal parfois. Et un chrétien, mais on doit se rappeler, un chrétien qui essaie de faire la vie sans église, c'est comme le brebis qui décide de tenter la traversée du désert tout seul. Donc, petite question pour vous. Pourquoi l'église, dans votre propre raisonnement? Pourquoi faites-vous partie d'une église ou pourquoi n'êtes-vous pas vraiment en train d'être dans une église? Trop facile, n'est-ce pas, de commencer avec ce que moi j'aimerais. Ce que moi j'aimerais dans une église. Ça ne me plaît pas ou ça ne me convient pas. Il y a besoin de quelque part où ça va pour moi. Mais faisant ce cas-là, on sera toujours dessus. On est rassemblés autour de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Ce n'est pas un choix, en fait, mais un fait. Nous sommes un peuple en tant que chrétiens, choisis par Dieu, afin de proclamer ses louanges. Une bonne partie de cela va être le fait de pouvoir le faire ensemble. Donc, comme on a vu, la raison d'être de l'Église, en attendant le retour de Jésus-Christ, c'est de proclamer ses louanges. Mais alors, deuxième chose alors, c'est quoi proclamer les louanges de Dieu? C'est ce que ça veut dire. Qu'est-ce que vous imaginez comme contenu de ces louanges à proclamer, comme on est appelé à faire ici? On pourrait dire simplement, et c'est vrai, ça veut dire que Dieu est grand,
super, Dieu est bon, on peut parler de ce qu'il a fait pour nous, on peut dire toutes sortes de choses. Mais en fait, ce qui est super intéressant dans ce verset, c'est de voir comment Pierre décrit ce concept dans le verset 9. Moi, j'étais en train de résumer tout cela en disant « proclamer les louanges de Dieu ». Mais est-ce vraiment ce que Pierre dit dans ce verset? Et il faut savoir que l'apôtre Pierre, il est très précis dans ses propos. Il prend le temps de bien expliquer ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Lui, il fait une précision assez précise, pour ainsi dire, dans ce verset. Il dit qu'il s'agit de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ces deux idées-là, ténèbres, lumière, c'est très biblique, c'est la façon biblique de décrire ce que c'est d'appartenir au monde, de ne pas connaître Dieu, d'être destiné à la destruction éternelle et la punition. Dans le royaume du diable, dans ce sens-là. Et la merveilleuse lumière, c'est la lumière de Dieu, de Jésus-Christ, lui qui est la lumière. Et donc il s'agit de parler de fait, de passé, d'avoir été racheté et sauvé, des ténèbres à la lumière. Donc voilà, il s'agit certainement de Dieu. On avait raison de parler de Dieu. Mais pourquoi Pierre décrit-il Dieu comme ceci dans ce verset? Mais je pense que c'est parce qu'il veut nous encourager à aller beaucoup plus loin que simplement dire « Dieu est bon » ou parler du fait que Dieu nous a aimés. Il veut nous dire que ce que l'Église devrait proclamer et louer à tout le monde, c'est ça l'idée, c'est le fait que Dieu nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière et que c'est ça qui est la chose à proclamer, qui fera toute la différence dans notre proclamation. C'est ça qu'il faut proclamer, c'est le caractère, l'action de sauvetage que Dieu fait et de préciser comment cela a lieu. Et je pense que ça aide beaucoup, parce que ça change beaucoup de notre façon de parler de Dieu. Et surtout, en fait, ça offre aux gens qui nous écoutent beaucoup plus que simplement un Dieu, peut-être comme les autres, qui offre quelque chose que moi j'aimerais. Je vais essayer d'illustrer cela. Imaginez que vous avez une fuite d'eau dans votre logement, dans votre appartement, votre maison. Et vous m'avez invité à venir manger avec vous après le culte. Et donc j'arrive à la maison, et puis je vois, ah oui, d'accord, il y a un souci là, il y a de l'eau partout, et au milieu de l'eau qui coule à flot, il y a un tuyau fissuré ou quelque chose. Et imaginez que j'arrive et je commence à vous dire, c'est très chouette d'être ici. Écoutez, je me suis dit en venant, ce serait vraiment chouette si vous pouviez rencontrer mon ami Yann. C'est un gars super, en fait. On se connaît depuis longtemps, on passe de super moments ensemble, on joue au hockey. Et je me suis dit, c'est vraiment chouette si toi tu pouvais le rencontrer aussi un jour. Qu'est-ce que tu vas me dire à ce moment-là? Tu vas dire, écoute Johnny, c'est chouette, je suis sûr que Yann c'est un bon gars, mais il y a un problème ici. Tu vois pas, là il y a de l'eau qui coule. On peut parler de Yann plus tard, peut-être, une fois qu'on a réglé la situation dans mon appartement. L'eau coule, les meubles s'abîment. Bon, on en parlera plus tard. Mais par contre, si j'arrivais après le culte, là comme ça, pour manger, il y a de l'eau qui coule, même situation, et je vous dis, tu sais, tu devrais rencontrer mon ami Yann. C'est un plombier en urgence. Et lui, il sait régler toutes ces choses. Il est spécialiste. Je peux pas l'appeler et on peut l'inviter tout de suite. Là, tu vas dire quoi? Ouais, super! C'est excellent! Quel est son numéro? Vous voyez la différence? On est allé bien plus loin pour préciser ce qu'on est en train d'offrir et pourquoi on parle et on loue quelqu'un. Et qu'est-ce que Pierre dit qu'il faut proclamer ici? Le fait que Dieu est spécialiste du sauvetage à des gens qui en ont besoin. Que Dieu rachète des gens des ténèbres. Il les transporte dans un royaume pour être son peuple, ses prêtres et sa nation sainte. Et ça, c'est l'évangile, en fait, n'est-ce pas? La bonne nouvelle du salut par Jésus-Christ. Et il faut le préciser quand on parle de Dieu.
On peut voir ça dans le mandat de Jésus lui-même dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Entre le moment de l'ascension de Jésus, son retour au ciel, dans ces jours que nous vivons maintenant, en attendant son retour, tâche de l'Église, notre tâche, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui il est, ce qu'il fait, pourquoi on en a besoin. D'autres mots, proclamer les louanges de Dieu implique forcément de proclamer la spécificité de la bonne nouvelle. Parce que c'est ça que Dieu fait actuellement dans ce monde, dans son monde. Il est en train de racheter des gens pour former une maison spirituelle, son église. Et c'est ça qu'on veut dire et proclamer à propos de lui. Beaucoup plus, ça va tellement plus loin, c'est tellement plus profond que juste quelqu'un qui m'aide dans la vie. Et ce qu'il a fait est digne de louange. Le seul message à proclamer, c'est en fait la verset 10. Ceux qui étaient rebelles contre lui sont maintenant son peuple et qu'il a maintenant de la compassion pour ceux qui n'y avaient pas. La raison d'être l'Église, c'est proclamer les louanges de Dieu, à savoir l'Évangile, la bonne nouvelle. Et là, c'est notre mission en tant que disciples de Jésus-Christ, proclamer cette bonne nouvelle en attendant le retour de Jésus. Mais comment le faire? Comment proclamer cet Évangile, cette bonne nouvelle? Mais trois choses, juste pour nous aider à réfléchir là-dessus. Et d'abord, on va voir que, en fait, l'appel ici, c'est bien de parler, d'expliciter la bonne nouvelle quand on en parle autour de nous. Donc, prêcher, annoncer et proclamer la Bible en toutes choses et en premier lieu, c'est la raison d'être de l'Église. Et c'est la peine de dire qu'en fait, bien qu'on devrait vivre, bien sûr, d'une manière digne de l'Évangile, et on veut avoir des gens qui nous disent, « J'ai vu que toi, tu fais des choses différemment. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. » Mais à la suite, il faut toujours parler et expliciter le pourquoi. C'est l'essentiel. Parfois, on raconte une situation dite de François d'Assise, je pense, qui dit « Prêche tout le temps l'Évangile et si nécessaire, utilise les mots. » La première partie est tout à fait juste. La deuxième, mais on veut dire en fait non, c'est nécessaire d'utiliser des mots. C'est trompeur sinon. On pourrait aussi dire « Donner à manger aux enfants et si nécessaire, utiliser de la nourriture. » Bien sûr, c'est nécessaire. Et dans la proclamation de ce que Dieu fait de l'Évangile, les mots sont nécessaires. Dieu parle, c'est sa façon de communiquer. On a besoin de communiquer. Parfois, il y aura, heureusement, des moyens de communiquer, il y aura quelqu'un qui ne sait pas parler ou qui ne sait pas entendre, mais c'est quand même par la parole. Et dans la proclamation de ce que Dieu fait, de l'Évangile, on veut préciser ce qu'il a fait. Il faut expliquer, expliciter, chercher à faire comprendre. Avec grâce et avec gentillesse. Et ça, en fait, c'est cette priorité qui devrait nous aider à savoir ce qui est l'essentiel et comment gérer les choses que nous faisons en tant qu'Église et en tant que chrétien aussi. Ça implique de se former peut-être, de réfléchir explicitement de comment pourrais-je expliquer l'Évangile d'une manière qui est compréhensible à mes amis, à ma famille, aux gens que je rencontre. Il faut profiter de sa personnalité, de qui on est. On n'est pas tous appelés à être la personne au coin de la rue. Et peut-être qu'en fait, ce n'est pas le meilleur moyen du tout. On veut expliciter à des gens qui écoutent, qui peuvent écouter, qui comprennent ce qu'on dit. Et bien sûr, on vient de le dire, on fait cela ensemble. On est une église, donc on veut profiter de l'aide des autres. Qui est-ce dans votre église, qui est quelqu'un qui sait bien expliquer l'Évangile, qui aime bien parler, profitez-en. Qui est dans votre église, qui est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, mais qui peine à avoir le courage de parler, profitez-en de cette personne et ses amis et faites des choses ensemble. Si tu as plus difficile à parler, plus introverti, présentez vos amis à un ami, chrétien ou chrétienne, qui est plus bavard, pour qu'ensemble vous puissiez parler de Jésus.
ou inviter aux événements, ou à rencontrer d'autres chrétiens, ou inviter quelqu'un pour le dimanche, pour venir écouter Paul proclamer la bonne nouvelle d'ici. Ça n'est pas une opportunité de prier pour cela? Je pense que vous avez la semaine d'évangélisation qui arrive. C'est le moment de prier que vous puissiez profiter de cela pour que d'autres entendent parler de la bonne nouvelle. Mais deuxièmement, on voit aussi, donc, si c'est d'abord cette idée, il faut expliciter et parler, on a aussi l'appel, c'est dans les versets 11 et 12, à des chrétiens qui sont dans le monde et différents du monde. En fait, c'est tout le thème thématique, si vous voulez bien, de 1 Pierre, d'être des étrangers mais choisis, d'être des chrétiens qui vivent dans un monde, dans le temps, dans le retour de Jésus. Et on est appelé à faire partie du monde qui nous entoure, mais tout en étant différents, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et donc, ça veut dire que d'abord, on doit être dans le monde en tant que chrétien. On ne peut pas juste se retirer et trouver un petit oasis de chrétiens et attendre le retour de Jésus. Ce n'est pas le but de l'Église, parce que notre but, c'est de proclamer les louanges de Dieu à ceux qui écoutent. Et donc, on est appelé à être dans le monde. Et tout de suite, après avoir expliqué qu'il faut proclamer ces choses, versets 9 et 10, versets 11, 12, Pierre enseigne ceci. Lisons ces versets. « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre, et vous abstenez des désirs de votre nature propre qui font guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ils remarquent votre belle manière d'agir et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. » On va revoir dans un instant bien une distinction entre le monde et l'Église. Il y a cette distinction entre non-croyants et ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais il faut comprendre que l'Église existe et doit avoir lieu au milieu, verset 12, des non-croyants. C'est là, on est vraiment là au milieu. Et verset 11, sur terre, en tant que résident, même si ce n'est qu'une résidence temporaire. Sinon, comment proclamer les louanges de Dieu? Comment verset 12? Les gens peuvent y remarquer notre belle manière d'agir s'ils ne peuvent pas voir comment on agit. Et donc, question à se poser ici. Est-ce que vous avez des amis non-croyants? Est-ce que vous avez connaissez des gens? Est-ce que vous vous intéressez à ceux qui vous entourent? Famille, aux études, au travail. Il y a beaucoup d'opportunités de s'intéresser à la vie des autres, de servir, d'aider. Ou est-ce qu'on a simplement juste des connaissances? Est-ce qu'on préfère éviter de devoir expliquer un petit peu qu'on est un peu différent des autres, qu'on ne veut pas faire les choses comme eux? Compliqué, n'est-ce pas? Mais on est appelé à être dans le monde en tant que chrétien dans ce sens-là. Pour que les gens puissent voir vraiment combien c'est différent quand on suit Jésus-Christ. Y a-t-il des non-croyants, on peut se poser la question, qui ont un tel accès à ma vie pour pouvoir remarquer ma conduite? Ai-je la possibilité de parler autour de moi vraiment du Dieu qui m'a racheté des ténèbres? Peut-être un petit moment juste pour revoir un petit peu. Quelles sont les décisions qu'on prenne dans la vie qui font qu'on a, en fait, on ne croise pas du tout d'autres, on n'a pas l'opportunité de parler de Jésus-Christ autour de nous? Ça va certainement varier selon votre personnalité, vos intérêts dans la vie, votre travail. Ça changera selon les saisons de la vie, n'est-ce pas? On a d'autres opportunités quand on a des enfants, quand on est retraité, quand on est à l'université, etc. Mais ne dites pas, c'est juste comme ça. Dieu a fait son peuple et je continue. Non, Dieu a fait son peuple afin qu'il proclame ses louanges. Donc voici le défi. Pensez à votre cercle d'amis ou à qui vous voyez en semaine, les gens de votre quartier, vos collègues. Pensez à comment profiter des choses qui se passent ici à l'église, de cette semaine d'évangélisation qui arrive, pour inviter d'autres à parler de la bonne nouvelle. Et ce n'est pas juste cette semaine, c'est toutes les semaines, c'est toute l'année. Quelles sont les différentes choses qu'on pourrait faire pour donner l'opportunité à d'autres d'entendre parler de ce Jésus-Christ? Et en fait, quand on réfléchit, il y a toujours de nouvelles personnes qu'on pourrait rencontrer, n'est-ce pas? Donc prions plutôt pour le courage et les opportunités. Et souvenons-nous, comme on a déjà dit, qu'on fait cela en tant que peuple ensemble, C'est pour ça qu'on est ensemble en tant qu'Église. Ce n'est pas de place pour la comparaison avec d'autres. Tu nous as donné tous des circonstances et des capacités et des dons différents. Réjouissons-nous de voir l'opportunité que d'autres ont. Inspirons-nous des efforts des autres. Et en tout temps, rappelons-nous que c'est Dieu qui rachète et qui transforme et qui appelle. Lui qui est le seul qui est digne de louange. Non pas moi, non pas nous. Et dans tous les cas, on prend alors donc l'opportunité d'être honnête quand on est en train de parler avec les gens pour dire ce que Dieu a fait pour nous. C'est vrai que quand on parle de Jésus, je ne sais pas si vous avez l'opportunité de faire cela et quelles sont les réactions des gens autour de vous. Peut-être qu'on peut avoir leur réponse, oh, c'est chouette pour toi, sous-entendu, mais pas pour moi. Mais on doit se rappeler, n'est-ce pas, qu'en proclamant les louanges de Dieu, on a dit quelque chose. Et après, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui fait le travail. Il nous appelle simplement à proclamer ce qu'il a fait, ce que lui il a fait pour nous. Donc il faut être dans le monde pour pouvoir proclamer la bonne nouvelle. Mais à la fois, comme on sait, ce ne sera jamais facile, car le peuple de Dieu est aussi appelé à vivre d'une manière différente. De vivre d'une manière qui est en contraste avec le monde autour. Être différent du monde. Et c'est là où on termine. En fait, en réfléchissant à l'idée de parler de l'Évangile, on se dit, mais moi, je ne sais pas faire ça. C'est difficile. Et en effet, c'est vrai. Hein. Surtout que si souvent, on fait tout l'effort, d'abord de se convaincre de faire l'effort, et puis l'effort même, on prie, et puis rien. Et les gens ne font rien. Et du coup, on ne veut certainement plus le faire, peut-être. On est découragé. Mais Pierre, on est conscient aussi de cela, je pense. Et donc, il nous rappelle que ce ne sera jamais facile, car bien que l'Église doit être au milieu du monde, elle est aussi vraiment différente du monde. On est étranger, Paul nous dit. Et ceux qui croient en Jésus sont différents de ceux qui ne croient pas en lui. On a vu le contraste déjà dans ce qu'on a dit. Et quand on est tout aussi différent que d'être dans les ténèbres, et la lumière dans notre compréhension du monde et de Jésus-Christ. Quand il s'agit de ne pas connaître la compassion de Dieu pour les autres, au lieu de l'avoir obtenue, bien sûr, il y aura des difficultés d'en parler. Ce ne sera pas facile, il faut admettre cela tout de suite. Je pense que c'est utile ça. Ne pas imaginer que si tu es vraiment super chrétien, alors tu auras vraiment facile à parler de Jésus autour de toi. Ce n'est pas ça l'idée ici. En fait, dans un certain sens, ça devient de plus en plus compliqué. Il faut admettre tout de suite. Il fait face aux conséquences potentielles aussi d'une telle ouverture. Bien sûr, certains vont apprécier, certains ne vont même pas comprendre, certains vont féliciter, mais d'autres vont aussi être vraiment dans l'opposition et calomnie, verset 12, les chrétiens, comme si nous faisons le mal de suivre ou de parler de Jésus-Christ. Et certains ainsi vont vraiment connaître ces réalités. Donc, dans ce cas-là, on préfère se protéger, n'est-ce pas? C'est précisément le débat qui fait rage dans mes pensées quand je suis en conversation avec mes amis non-chrétiens. J'essaie de dire quelque chose de l'Évangile, mes pensées me disent « Non, non, dis pas ça, tu vas t'exposer à toutes sortes de ridicules, ou on va te traiter comme malfaiteur, ou on ne va juste plus parler avec toi. » Ça sera tout aussi le cas quand on agit d'une manière qui honore l'Évangile, dans la famille peut-être, au travail, à l'université. Tout le monde ment un petit peu pour dire qu'ils ont travaillé une heure de plus, ou signe pour dire qu'ils ont vérifié une information quand ce n'est pas le cas. Être différent et honorer Jésus dans de telles situations, c'est compliqué. On ne pense rien dans notre monde à partager toutes les réponses pour le prochain interro, tricher parce qu'on se dit « Ah, ce n'est pas très important ». La bonne conduite qui va honorer l'Évangile, c'est d'honorer Jésus dans ces choses et pas suivre les autres, être différent. Et ça dévoile en fait le mal et la mauvaise façon d'agir des autres. On va probablement être traité comme si on faisait le mal quand on essaie d'honorer Jésus dans nos vies. Mais Pierre nous rappelle, il nous réconforte ici. C'est une conséquence normale de proclamer les louanges de Dieu et de vivre ces choses pour Jésus, de prêcher l'Évangile en tant que peuple de Dieu. Mais par contre, du coup, cela ne devrait pas être une raison de ne pas le faire. Notre nature propre, comme il explique ici, va nous donner ce désir de ne pas proclamer l'Évangile de Dieu, de ne pas parler de l'Évangile, ne pas être différent des autres. Et pas de surprise que Pierre semble parler aussi bien des péchés quotidiens qui nous tentent de ne pas vivre et parler de Jésus-Christ. Les façons dont on fait le compromis, on se piège dans la vie. Mais le peuple de Dieu est différent du monde. On est sauvé des ténèbres à la lumière. Et nous avons en effet la vraie et certaine promesse qui ne semble que des résidents temporaires dans cette situation actuelle, les étrangers même. Et on voit ici, en fait, qu'il n'y a qu'une seule distinction pour ceux qui croient en Jésus. Du monde ou étranger sur terre en attendant de participer à la vie éternelle. Étranger qui participe à la merveilleuse lumière de l'Évangile de Jésus-Christ. Et là, c'est l'encouragement qu'il nous faut. Un avenir éternel avec Jésus. Nous voulons alors prier pour que nous puissions dire, je suis étranger sur la terre. Dieu va intervenir. Et en attendant, on n'a rien à perdre en tentant 1000 fois par an de parler de Jésus-Christ autour de nous. J'imagine, si vous êtes chrétien depuis un certain temps, ou même quelques jours même, vous auriez vu et vécu ces défis. Et donc, il est bien de reconnaître ces choses, se dire ensemble, on trouve ça compliqué. Et donc, on a besoin de s'encourager, d'en parler, de partager et de se rappeler ensemble ce que Jésus a fait pour nous. Et ainsi, s'encourager à fidèlement parler de Jésus, proclamer cette bonne nouvelle autour de nous. Et c'est glorieux en vue du fait que Dieu interviendra un jour quand Jésus revient. Et on sera ensemble dans l'Église au ciel. Donc en tant que ceux qui croient en Jésus-Christ, on peut continuer de nous rassembler en tant que son peuple, dans le monde, mais différent du monde, sachant qu'en le faisant, nous déclarons, et on est équipés pour déclarer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Je peux vous laisser avec un petit défi. Je pense qu'il y a deux façons de vivre en tant qu'étranger, mais choisi, en tant que chrétien dans le monde. Je vais utiliser juste l'illustration de moi-même. Quand je suis allé à l'université, j'ai eu l'opportunité d'aller 2 fois à l'université, parce que la première fois, j'ai raté la première année, et puis j'ai changé d'université, j'ai allé à une autre. Et la première année, j'ai vécu en tant qu'étranger dans le monde. Mais j'étais chrétien, mais si vous auriez posé la question à mes amis, mes camarades de classe, je ne suis pas sûr qu'ils auraient su te dire que moi j'étais chrétien. Je ne faisais rien de mal, j'étais juste très attentif à ne pas me faire remarquer en tant que chrétien. La deuxième fois, grâce à des amis qui m'ont encouragé à l'église, qui m'ont enseigné et qui m'ont mentoré, j'avais les opportunités de pouvoir parler de Jésus, et j'ai juste pris la décision de ne pas me cacher, mais de là où j'étais différent, de laisser les autres voir cela, dans le domaine de l'alcool, dans le domaine de comment parler des autres. Assez simple quand on vit vraiment avec d'autres chrétiens, avec des non-chrétiens dans le monde. Mais il y a 2 façons de vivre en tant qu'étranger. Soit on fait l'effort de ne pas se faire remarquer, soit on fait confiance à Jésus, on s'encourage ensemble pour être différent, et ainsi avoir l'opportunité de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Prions ensemble. Notre Dieu, c'est déjà un privilège énorme nous puissions venir à toi et savoir que tu nous écoutes, parce que c'est toi qui nous as appelés, qui nous a transférés du royaume des ténèbres, qui nous a appelés à ta merveilleuse lumière grâce à l'évangile de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection. Et donc donne-nous, en tant que ton peuple, de profiter de notre relation avec toi et de pouvoir le vivre de manière distincte ici sur terre. Je prie, Seigneur, pour cette église, pour ce peuple rassemblé autour de toi. Je prie pour ceux, Seigneur, qui se disent qu'ils ne trouvent pas vraiment leur place ici ou qui peinent à participer dans ta famille. Tu donnes du courage dans l'œuvre de Jésus-Christ, que tu rappelles de ce que c'est de partager la vie ensemble, malgré les défis évidents qui sont toujours là, mais pour la cause de la bonne nouvelle. Prions, Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour cette Église dans les efforts de proclamer louange de Jésus-Christ, de toi, de ta bonne nouvelle, qu'ils puissent s'encourager mutuellement, qu'ils puissent profiter des dons, des capacités, des situations des uns des autres, sans crainte, sans jalousie, sans esprit de compétitivité, mais simplement de s'encourager dans tous les différents domaines, à être ceux qui parlent de Jésus autour d'eux, qui parlent de sa bonne nouvelle. Et je prie, Seigneur, pour les efforts particuliers de la semaine à venir, et nous prions pour toute cette année, pour les efforts de toute la vie, que grâce à ton œuvre, dans ton peuple, ici, la bonne nouvelle de Jésus-Christ puisse retentir autour de Bruxelles et autour des vies des individus ici présents. Nous le prions au nom de Jésus. Amen.